Eh bien, faisons un saut avec Drop dans la nouvelle exposition du lieu d'art La Halle à Pont-en-Royan. Une proposition printanière qui donne de beaux échos au Vercors avec Roberto et Milena Azzori. Pour nous introduire dans cet espace et puis aussi une ambiance assez particulière, Giulia Turati, commissaire d'exposition et bien sûr responsable du lieu d'art. Bonjour Giulia.
Bonjour.
Il y a une dimension à différentes échelles, on pourrait dire, hein, qui marque un peu cette exposition.
Oui, 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 c'est une exposition qui est pensée effectivement pour notre lieu, voire pour notre région. Et moi, j'ai rencontré le travail, enfin, j'ai rencontré les artistes après avoir découvert leur travail. Il y a peut-être un an et demi maintenant. C'est vrai que je suis rentrée dans leur univers par une exposition qui était full, que j'avais vue à Bruxelles, qui était une exposition dense, peuplée, très peuplée, avec des jeux de couleurs qui étaient très présents aussi, des matérialités très présentes aussi. Bon, après, comme toujours, quand on invite des artistes dans nos espaces, je leur proposais de faire un repérage et de toute manière, c'est une carte blanche à chaque fois. Et donc, tout de suite, à l'arrivée à Pont, ils ont dit qu'ils avaient envie quand même de travailler un lien avec les lieux, ses spécificités, lieux dans le sens vraiment les salles d'exposition et puis aussi la géologie, les paysages qui nous entourent. Donc, au fur et à mesure des échanges, des mois, il y a un projet étonnant par rapport à ce que j'avais, mais comme souvent, par rapport à ce que j'avais connu de leur travail qui a émergé, plus monochrome. Voilà, avec quelque chose que moi je pense est en première approche très sensorielle, très immersive, vraiment cette volonté de jouer avec les corps de spectateurs dans l'espace. Et puis tout un parcours d'exposition qui est en forme d'allégorie, ils en parleront mieux que moi, en allégorie de la vie humaine, de la durée éphémère aussi de notre présence sur Terre, avec des indices à la fois énigmatiques et mystérieux à déchiffrer, qui est riche en références aussi. On l'espère, un parcours qui va toucher les publics à plusieurs endroits, que ce soit purement par le ressenti, et puis peut-être un côté plus introspectif, susciter, ouvrir à d'autres réflexions sur nous-mêmes et là où on évolue.
On part de le titre qui s'est Drop. Quand on est venu ici et quand on a fait des recherches sur Internet sur la formation du lieu, de les territoires ici, on a découvert que l'eau, c'était vraiment fondamental. La géologie s'est formée grâce à l'eau. Et même les grottes et toutes les rivières et les flumes qu'ils ont ici nous a fait un peu demander quel rapport nous on a avec l'eau et quel rapport à l'eau avec la terre. Et quand on a commencé à réfléchir sur le fait que c'est même pas possible pour nous de comprendre combien de temps il faut qu'un goutte pour construire des grottes, pour faire des stalactites et stalagmites. On a commencé à réfléchir sur le fait que nous, en tant qu'êtres humains, on a toujours besoin d'essayer de mesurer ce qui nous entoure par rapport à notre vie. Et parfois, c'est un peu à la limite, parce que c'est vraiment la terre et la vie qu'il y a sur la terre. C'est nous qui on est partis de ça, et ce n'est pas l'inverse qu'il faut être mesuré. Donc, on est parti pour ça. On a commencé à réfléchir aussi sur le fait que le territoire ici, il y a une grosse histoire de souffrance aussi par rapport à ce qui c'était le moment de la guerre et de la résistance. Et c'est aussi un peu un espoir, celui de la goutte, que quand même c'est seulement le fait de la répétition, la tenace de faire quelque chose, même d'une petite force, qui est quand même sur le temps, qui c'est beaucoup plus long que celui que nous on perçoit parfois, ça peut construire des...
Puissante, oui, en fait.
Et c'est ça, en fait, qui nous a fait un peu partir pour cette installation. Et après, on peut dire que toute l'installation, c'est un... On essaie de comprendre un peu, on a essayé, même nous, quand on était pendant la production, de comprendre pourquoi nous on a toujours besoin de mesurer ce qu'on a besoin, parce qu'en fait, on est tout le monde est conscient que ça va, il y a un moment que ça va tout terminer, ça va tout finir. Donc on a besoin de laisser des traces, on a besoin de, quand même de marquer un peu notre passage sur les chemins des autres aussi, de nous-mêmes. Donc c'est un peu sur ça qu'on a réfléchi beaucoup. Bien sûr, les œuvres qu'on a produites sont... on les a pensées pour qu'ils ont plusieurs niveaux de lecture. Donc si on peut bien sûr essayer de décodifier chaque élément qu'on a construit, mais comme on a vu les lieux, on a fait les repérages, on a vu qu'il y avait cette belle bibliothèque dans laquelle il y a plein des enfants qui rentrent et qui viennent ici. Donc on a aussi essayé de faire une installation, une exposition dans laquelle les enfants, ils peuvent rentrer, ils peuvent jouer, ils peuvent quand même comprendre que c'est un lieu dans lequel ils sont bienvenus, parce que c'est pas trop hermétique, c'est ce qui, bien sûr, quelqu'un il peut découvrir que les animaux qu'on a choisis ou les sculptures qu'on a faites sont des références à des autres images. Mais sinon, quand même, sont des images qui eux-mêmes, ils peuvent...
Ils peuvent parler,
ils peuvent, on dirait, jouer avec les yeux, avec...
En tant que duo, nous, on mélange toujours plusieurs techniques et notre skills qui sont différentes, nos capacités. Parce que moi, je travaille plutôt avec les tissus et Roberto, il est plutôt peintre et sculpteur. Et donc, voilà, on mélange ça dans une optique pour créer des installations toujours qui vont toucher des points qui sortent un peu de la salle art audiovisuel pour... plutôt aller dans les côtés de la perception et un peu permettre aux spectateurs de laisser dehors sa vie normale, la lumière normale et les sensations qu'il avait tout à l'heure. Et dès qu'il rentre dedans, il y a toujours une autre expérience, on dirait. Et en plus, à niveau narratif, notre travail il a toujours été centré sur l'être humain, en fait, dans toutes ses nuances. C'est ce que nous, on adore explorer, parce que c'est explorer nous-mêmes, en fait, nous analyser. Et donc, on dirait, mais celle-là, c'est la première expo dans laquelle il n'y a pas vraiment un être humain, comme celui-là que Julia elle était en train de dire de la dernière expo La Foule. Mais je le sens même plus puissant ici, la présence ou même l'absence ou l'écho de l'être humain qui dans les autres expos. Donc, c'est une chose un peu plus subtile. Drop, cette expo, elle va parler de la... Elle va investiguer un peu la relation, la perception humaine du temple. En fait, c'est pas l'investigation du temple lui-même, mais c'est la perception que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons du temple. Donc, il y a les temples un peu perçus à niveau individuel et les temples qui c'est celui que moi, on définirait éternel, non? Les temples qui on ne peut pas mesurer, nous, comme des petits êtres humains.
Le temps géologique,
un peu. Oui, le temps géologique. Et voilà. Donc, il y a l'être humain, même si on ne le voit pas, on voit une petite partie de son corps, on dirait.
En tout cas, votre propre univers avec des symboliques philosophiques et puis également des chimères hein, qui prennent part vraiment dans le cœur de l'exposition. Après, chacun interprète aussi ce que vous avez souhaité proposer.
Oui, en fait, aussi l'installation, je voulais dire seulement ça, que toute l'installation s'est conçue pour... dans lesquels, bien sûr, c'est des arts plastiques, c'est des trucs, des objets physiques, on dirait. Mais quand même, il y a, comme on a joué avec les lumières, on a, même les salles même, parce qu'on rentre dans la première salle qui c'est, on dirait, plus chaude, et après, comme on rentre dans la terre, on rentre dans les autres salles, ça devient plus froide. C'est même si on pouvait pas le faire nous-mêmes, j'aime bien le fait qu'on a les sons de la vidéo qui s'arrangent dans les autres salles. Et après, il y a la température des autres salles qui se mélangent. Après, on a noté que quand on rentre, on est complètement immersé dans les expositions. Donc, c'est ce que nous, on aime bien de faire dans notre projet, c'est de construire des installations synesthétiques dans lesquelles le spectateur, il a plusieurs stimulus en même temps. Donc, ça veut dire que c'est plus facile pour nous de... On ne veut pas dire vraiment conduire le spectateur dans la perception de quelque chose, mais sûrement... Ça construit une sensation qui ça reste dans la mémoire de qui sort de l'expo. Parce que c'est quand même beaucoup de stimulus en même temps que ça...
Ou quand même on espère ça.
Oui, vous avez bien donné un aspect de la grotte que l'on trouve dans le Vercors avec différentes salles. Ce côté profondeur, petite salle, plus renfermée, plus introspectif. Il y a comme ça différents niveaux de sensations, on pourrait dire. La première salle est très immersive, un peu cocon, on se sent bien.
Ça, c'est aussi merci à l'emploi du tissu qui ça rend tout un peu plus souple, un peu plus chaud. On est bien.
C'est une grotte doudou.
Et également, après, les différents échos de la géologie dont vous parliez, du Vercors aussi, certaines représentations.
Oui, nous aimons vraiment, chaque fois qu'on conçoit des projets, on est vraiment poussé par l'endroit lui-même, qui nous donne beaucoup d'inspiration. Et après, bien sûr, on va les décliner pour notre esthétique, les différents médiums qu'on décide d'employer pour chaque endroit différent. Mais oui, on adore concevoir des installations site spécifiques. Et bien sûr, même la couleur dans ces processus, il est très important parce que la couleur, les véhicules les plus essentiels parmi lesquels nous, on a, même en changeant seulement la lumière dans la première salle, par exemple, les sensations qu'on peut avoir sont différentes d'un côté à l'autre. Donc le rouge, c'est bien sûr beaucoup plus intense et donne une sensation de chaleur comparée au bleu ou au blanc. Ou sinon, quand même, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi plutôt un monochrome blanc pour cette expo. Donc même s'il y a beaucoup, une diversité de matériaux importante entre les salles, on a choisi les blancs parce que pour cette expo-là, qui c'est un peu atemporel, c'est un peu, je ne sais pas dire, on ne voulait pas donner notre point de vue, notre clé de lecture à niveau chromatique aux spectateurs. Donc on voulait laisser un peu une toile blanche à remplir.
Une neutralité,
quand même, une chose un peu plus... C'est une thématique très dense elle-même.
Ce qui est de la première salle, on l'a vraiment construit aussi sur place, donc on a bien vu la transformation et la c'est quelque chose forcément qui a un impact. La matière n'est pas neutre en vrai.
Oui, en fait, dans la première salle, on a les tissus. Et après, dans la deuxième salle, il y a des sculptures faites en plâtre, qui c'est un matériau complètement différent, qui nous rappelle bien sûr à les sculptures classiques, à tout ce qui c'est l'histoire de l'art. Et aussi, c'est de la pierre, on dirait. Donc, on peut percevoir qu'il est dur, qu'il est froid, qu'il est quand même agressif dans son matériau. Parce que on sait que même si on ne touche pas, on sait qu'il est dur. Parce qu'on a la perception avec les yeux jusqu'à quand on peut arriver. Mais par contre, la troisième salle, les matériaux qu'on a employés sont des matériaux à nouveau souples. Mais c'est différent parce que ce sont des matériaux souples. On peut les toucher, on peut pas les toucher, mais quand même, on ne sait même pas sans les toucher qui sont des matériaux qui c'est plus doux. Donc ça redescend, on commence souple.
Il y a des différents points de tension entre un niveau perceptif, donc très très souple, après
très très dur,
très très dur, et après
souple
moyen.
Et après aussi dans la quatrième salle, donc le cinéma, qu'il y a les vidéos qu'il est projeté, qu'il a aussi un audio qui s'est pensé pour ne pas le faire arriver jusqu'à la première salle. Donc on découvre à petit cet audio qui nous appelle jusqu'à la salle cinéma. Et en fait, notre idée, c'est un peu que, comme tout l'expo, ça parle du temps, et on a un peu une perception dans l'expo de le temps cyclique. C'est pas vraiment que le temps ça commence et ça termine, c'est vraiment tout se transforme, mais rien ne se forme. Donc c'est l'idée, c'est que quand on arrive jusqu'à la dernière salle, donc le cinéma, on a envie de retourner jusqu'au début, parce qu'en fait, c'est lui qui s'est projeté dans les vidéos. C'est un objet qu'on a trouvé dans la première salle.
Mais dis pas trop.
On va dire trop.
En tout cas, la configuration du lieu permet cette progression vers la goutte.
C'est parfaitement circulaire et c'est parfaitement cave, on dirait. Surtout dans les dernières salles. Et donc, une magie s'est créée vraiment en relation à la halle elle-même, au lieu d'expositions qui sont très spéciales. Sur ça, je trouve que ça dialogue bien avec l'expo.
Et on oublie quand même un détail qui est peut-être pas au même niveau que les autres œuvres, mais il y a en peinture au niveau de la place d'un autre espace showcase donc sur la place de la Halle, qui est presque qui est donc en peinture avec des formes très concentriques de stalactites, avec des, voilà, de, un dégradé de gris aussi qui donne une sensation plus de profondeur et pénétration, et que moi, en rigolant, je disais, c'est vraiment en invitation à sauter dans la grotte. Donc oui. Ça aussi, je trouve qu'il y a une image qui va être forte, aussi l'échelle est assez grande aussi, et qui va, donc, au niveau d'une des entrées de la Halle sur la place, va inviter à poursuivre, en tout cas à commencer l'exploration un peu plus loin.
Ah oui, donc l'intitulé Drop s'y est bien à la proposition.
C'est vrai que Drop a plusieurs significations qui sont pleinement représentées.
Il y a aussi le travail de la perle, on peut en toucher un petit mot aussi, des confections beaucoup plus réduites.
Ça, en fait, on a oublié de le dire. En fait, cette expo, elle contient dans elle-même une performance cristallisée dans une sculpture qui n'est pas terminée aujourd'hui. Donc, c'est le crâne avec plein de perles qui sont tous été brodées à la main par moi. À partir du début de quand, oui, après qu'on a fait les repérages, jusqu'au jour avant de tout aménager ici avec le transport. Donc, ça c'est bien sûr une cristallisation,
on peut le dire. C'est une trace, on dirait.
Une trace
du temps qu'on a employé pour faire la production,
oui,
qui s'est cristallisée sur cette sculpture,
oui,
qui en fait, enfin, c'est... On peut déjà décrire la voix, la première impression qu'on a, c'est combien de temps il faut pour faire ça. C'est la première question qui nous pose, parce que c'est, on dirait, on arrive toujours à comprendre, même si moi je ne sais pas broder, mais si je vois ça, je comprends qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de... des obsessions, on dirait, des résistances, être obstinée,
tout ça. Ça, il faut. Oui, donc, elle est très symbolique, elle-même, cette sculpture performance, on dirait, qui est un peu un gioiello, comme c'est dit. Un bijou, voilà. le bijou final à niveau...
Voilà, juste avant d'être attiré par les gouttes, on assiste donc à votre vidéo. Il s'agit également de cycles qui donnent une rythmique.
Oui, en fait, les vidéos, il est conçu pour être une vidéo dans laquelle, si quelqu'un il a envie de les regarder tout, en fait, ça ne dure même pas 4 minutes, il peut se mettre à soir et les regarder du début jusqu'à la fin. Et il y a une petite histoire qui se passe. C'est, en fait, c'est un petit... on dirait une histoire que tout le monde connaît. Il y a quelque chose qui ça pousse, sa naissance, ça pousse, ça grandit, ça mort, ça va mourir et ça recommence à nouveau. Donc le truc, c'est que nous, on avait l'idée de faire une vidéo dans laquelle qui n'a pas envie de rentrer et rester 4 minutes à les regarder tous ensemble. Chaque image, elle est conçue comme une photo, comme une image qui c'est comme un tableau qu'on peut regarder. C'est pas nécessaire de regarder tout du début jusqu'à la fin pour avoir quand même l'impression, la perception de ces vidéos-là. Donc c'est ça. Si on veut, on peut les regarder même 10 fois parce qu'il va en loop. Donc c'est à petit, on va regarder, noter plus de détails, on va regarder plus de combien la lumière à l'intérieur du vidéo ça change par rapport à ce qui se passe, ce drama qui c'est en fait la fin
Aussi avec la relation avec les sons qui parfois ils tombent bien dans les vidéos et parfois pas. Et donc là, on est un peu, on attend de voir quelque chose qui se passe avec nos yeux, mais ça n'arrive pas avec les oreilles. Et au contraire. En plus, là, on adore les petits cinémas de la Halle. Il est très chouette, confortable, tout. Non?
C'est une cavité aussi, apparemment.
Oui, très, très bien. Donc, on voulait quand même profiter de cette occasion d'avoir un cinéma comme ça, dans cet endroit, pour faire.
Oui, les vidéos, on l'a fait exprès pour cette salle-là, en fait.
Eh bien, merci beaucoup, Roberto et Milena Azzori. On précise d'ailleurs que c'est la première, si je ne dis pas de bêtises, première exposition en France,
Oui, c'est tout à fait vrai. Quand Julie nous a invités, on était très heureuses, mais on n'avait pas trop compris où c'était. Donc, quand on est venu ici à faire le repérage, on était au septième ciel, on dirait, quand on a découvert les lieux, on a découvert les paysages. Parce que, bien sûr, d'être dans une ville, ça permet peut-être plus du monde, je ne sais pas, mais quand même, quand nous, on se balade ici, quand on promène, en fait, nous, on est comme si on est en vacances dans ces lieux. Julia nous a toujours dit que vous êtes ici pour travailler, même si on travaille 10 heures par jour, bah pour nous, déjà de regarder ces beaux paysages, la rivière, le pont, qui quand même c'est étonnant, ça fait du bien à osier.
À voir donc absolument au cours de ce printemps 2024, Julia.
Oui, ce sera jusqu'au 29 juin dans nos salles.
Merci Julia Turati. Bonjour Jonathan Ferrara.
Bonjour.
Des temps forts à découvrir à l'occasion de l'exposition En Écho, mais pas que.
Alors oui, l'exposition, alors déjà elle se visite aux horaires d'ouverture de la halle, les mardis et vendredis de 16h à 19h et les mercredis et samedis de 9h à midi et de 14h à 18h. Et donc oui, plusieurs événements seront proposés au public sur la durée de l'exposition, pour tous les âges et toutes les envies aussi. On se glissera aussi dans la soirée pyjama qui est organisée par les médiathécaires. Alors assez traditionnellement, cette année, ce sera un peu plus tôt, ce sera le 14 juin. Donc on vous y invitera le vendredi 14 juin à 18h30 à, dans un premier temps, venir déambuler un peu, si la météo le permet, dans les rues de Pont et découvrir une sélection d'histoires lues par nos collègues médiathécaires. Et puis de terminer le parcours justement dans l'exposition, peut-être aussi en itinérance avec une visite comptée. On aura aussi, ça ce sera pour le finissage de l'exposition le samedi 29 juin à 14h30, un atelier tout public autour de la technique du moulage du plâtre, qui est un matériau très présent voilà, dans l'exposition, travaillé par Roberto et Milena. Et puis aussi à mi-chemin, parce que cette année on accueille aussi un artiste en résidence sur le territoire, Valentin Defaux, qui travaille sur un projet de catalogue du dehors, qui est une sorte d'encyclopédie de diverses formes collectées sur le territoire. Et donc là, l'artiste vous invitera le 27 avril à la Halle, à 14h, à une initiation au modelage qui prendra un peu appui aussi sur le fond local de la médiathèque pour créer des petits dioramas. Et tout ce petit travail aussi sera d'ailleurs restitué à la Halle pour la fin de la résidence. En juillet. Toutes nos infos, de toute façon, elles seront disponibles sur notre site web www.lahalle-pontoroyant.org et vous pouvez aussi nous contacter au 04 76 36 05 26 ou par mail à l'adresse public avec un S @lahalle-pontoroyant.org et tous les événements autour de l'exposition sont gratuits, donc on vous conseille très fortement de réserver aux coordonnées que je viens de vous donner.